Vous écoutez France Culture.
Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe des Papous. Pour la récré de France Culture, à l'affiche L.S.D. Léger strabisme divergent ou un regard tordu sur l'étrange tableau de Greuze, le guitariste Jacques Jouet.
La chair du bulot, la chair du bigorneau, la chair de l'escargot. Mais on va bouffer dans les musées. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les grandes dents de leurs grands yeux et les grands estomacs qui sont derrière? Je ne veux pas qu'on me regarde comme ça.
Et aussi un petit mot sur la porte, des variations sur contrepaix honnête, parodie le conseil Patrice Caumont-Jacques Vallée, tous contrepaîtistes distingués, puis les gonfleurs de texte et une nouvelle page du petit Rémaillard illustré, au mot carton, Véronique Brindeau.
Mais comme disait l'autre, si la flèche atteint le carton, c'est qu'elle a manqué tout le reste, c'est peut-être pas de la haute, mais presque.
Et pour boucler ce numéro des Papous dans la tête, la textée avec Jacques Bertrand, Patrick Beignet et Serge Joncourt. Les Papous, c'est jusqu'à 13h58. Une émission à télécharger pendant un an, à réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Vous êtes également les bienvenus sur notre page Facebook Entre Amis pour sourire ensemble. Les Papous, c'est parti avec une page de Publipapoucité. C'est nouveau, ça vient de sortir et on en parle en réclame Papou, proposé par Patrice Minet, avec Odile Conseil, Eva Almassy, Hervé Letellier et moi. À vous Patrice.
Depuis toutes ces années, qu'avez-vous fait de vos loisirs ?
J'étais à la plage.
J'étais au ski.
J'étais au Touquet.
J'étais avec ma mère.
Et vous n'en avez pas assez de ces vacances banales ?
Oh si, la plage, c'est plein de gens.
À la neige, je me suis cassé la jambe.
Moi, au Touquet, il a plu tout le temps.
Moi, je m'en fous du moment qu'il y a ma mère.
Il existe un lieu, un seul, qui ne soit ni surpeuplé, ni humide, ni dangereux. Un lieu où dépaysement rime avec sécurité, mais pas avec ennui. Vous désirez le connaître ?
Oui, mais attention au coup de soleil.
Moi, je n'ai rien contre. Mais je ne prends plus le tire-fesse.
Faut-il prévoir un anti-moustique ?
Oui, je veux le connaître, car depuis que ma mère est partie chez mon père, je suis perdu.
Très bien, vous allez vivre, enfin. Enfoncez-vous.
Où ça ?
Dans votre fauteuil, ouvrez-le.
Ouvrir quoi ? Mon fauteuil ?
Ouvrir mon lit ?
Ma boîte aux lettres ?
Ouvrir ma mère ? Elle ne voudra jamais.
Ouvrez votre livre. C'est quoi, votre livre ?
Bah, c'est notre livre.
Mais encore ?
Notre livre de beurre ?
Non ! Votre livre, c'est 20 000 lieues sous les mers, une épopée en sous-marin, sans sable, sans vacanciers, sans neige, sans pluie, sans tire-fesse, pas une seconde d'ennui, pas de risque, pas de coup de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci, monsieur Jules Verne, merci pour ces 20 000 lieues sous les mers.
Oh, moi, du moment qu'il y a des mers... Anyway, yeah, I'm a going home. My baby used to whip me a little. My baby used to whip me a little.
L.S.D. Léger strabisme divergent ou un regard tordu sur la peinture. Un papou, le papou Jacques Jouet, se penche sur un certain tableau et le regarde, l'observe même, avec sa subjectivité, en ne tenant pas compte de l'intention de l'artiste qui l'a peint. Jacques Jouet porte son regard neuf, rafraîchissant même, sur une toile célèbre. Et on fait presque tout ça dans les musées, sauf ceux bien sûr qui suivent le sens de l'expo, un casque audio vissé sur les oreilles pour écouter tous les discours autorisés sur chaque œuvre. Mais n'oublions jamais, comme l'a dit Marcel Duchamp, que c'est le regardeur qui fait le tableau. Le regardeur Cueco sur la naissance de Botticelli, le regardeur Beignet sur les glaneuses de Millet, la regardeuse Dominique Muller sur la mort de Marat. Depuis que les papous existent, nous jouons régulièrement à ce jeu et vous pouvez d'ailleurs retrouver nombre de ces regards tordus dans notre anthologie publiée chez Gallimard. Jacques Jouet, c'est à vous de jouer. Quelle toile célèbre avez-vous choisie ?
Eh bien, c'est un tableau de Jean-Baptiste Greuze qui s'intitule « Le guitariste ».
C'est un très fameux, très célèbre tableau.
Oui, il est dans le dictionnaire.
Oui, comme beaucoup d'autres, hein, même des moins célèbres, c'est vrai.
Quel dictionnaire ?
Serge Joncourt, vous voulez bien nous faire une description objective ? Alors, je sais que l'objectivité avec vous, c'est un peu difficile. Mais cependant, donc, cette toile, je crois, se trouve à Nantes.
Ah oui ?
Oui.
Très bien.
Et elle est d'un très grand format. Elle est immense.
Oui, 350 sur 450, quelque chose comme ça.
Mètres, centimètres. Non, centimètres.
Oui, seulement, oui. Oui, c'est dire qu'elle n'est pas très grande. Si, elle est grande, c'est très grand. C'est très grand. Il s'agit en fait d'un tableau très centré sur le personnage, au point presque de l'inclure exclusivement. Hein.
Oui, le guitariste donc.
Le guitariste, oui. C'est, ouais. En plan donc très serré, on voit un jeune homme assis sur un banc, la jambe droite posée sur le banc, et il tient en ses mains une guitare. Guitare qui s'embête l'instrument déterminant pour l'artiste, enfin je parle du peintre, puisque le tableau s'appelle donc le guitariste. Alors la guitare, c'est une guitare qu'on pourrait dire classique, je sais pas, je veux dire en cela qu'elle n'est ni baroque ni électrique.
Non. Ouais.
Puisque le tableau date très probablement
du 1757.
18e siècle, voilà, hein, soyons larges.
Non, je suis précis.
Oui, enfin, soyons, oui. Je parlais pour moi. Alors, bon, cette guitare, il la tient d'une façon curieuse. Alors, la table de la guitare est posée sur la jambe gauche de notre guitariste. Et de la main droite, il tient non pas le manche de l'instrument, mais la mécanique, signe qu'il est très probablement en train de l'accorder.
Voilà, oui.
Ce qui, d'ailleurs, aurait mérité que le tableau s'appelle non pas
le guitariste, mais l'accordeur.
On est bien d'accord.
Oui.
Alors, ce jeune homme, pour le reste, est assez inquiétant. En tout cas, il nous fixe, nous, spectateurs de cette toile, assez bizarrement. Il nous lance un genre de regard trouble où se mêle la défiance et la surprise, une sorte de malveillance, en tout cas. Bon, comment dire, je sais pas.
Il a l'air très stressé, quand même, très angoissé.
Écoutez, on sent bien qu'on le gêne. Hein.
Ouais.
Alors, plus étrange, au bout du banc, il y a une table avec une cage à oiseaux posée sur cette table, quelques gourdes diverses, on ne sait pas bien si elles sont remplies ou pas, et bizarrement, des oiseaux huppés. Je ne sais pas s'ils sont de nos latitudes, d'ailleurs, ces oiseaux.
Mais ils ont l'air morts, quand même.
Autre curiosité dans la curiosité, il y en a un qui pendouille depuis le bord de la table, alors que l'autre est mort au pied de cette même table. Et il y en a un qui a l'air à peu près encore en vie, à côté d'un poignard posé sur cette même table et de deux bougies accrochées au mur. Que veut dire de plus, sinon que l'impression d'ensemble s'en dégage une sorte de grand malaise. Et pour le coup, on ne sait plus bien pourquoi ce tableau s'appelle le guitariste. J'aurais plutôt tendance à l'appeler le malade mental.
Ah oui, ouais. Carrément. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un tableau très joyeux.
Non, mais je...
Oui, c'est pour ça que vous l'avez choisi, Jacques Jouet.
Je partage bien des descriptions de
ah oui.
Serge. Hein,
oui. Ah oui. Vous dites le conseil, vous êtes penché quelques minutes sur ce tableau, vous l'avez regardé. Est-ce qu'il vous a fait peur, comme il semble inquiété,
Serge ? Le malade mental, ça serait en effet un très bon titre, parce qu'il y a dans ce personnage quelque chose de la folie qu'ont les grands chercheurs et les grands inventeurs. Or, nous sommes là face à un grand inventeur, puisque ce tableau, c'est ni plus ni moins l'invention du téléphone.
Ah !
Donc l'homme qu'on voit sur ce tableau, c'est en effet un inventeur, ça se voit au premier coup d'œil, il porte une blouse blanche, comme le docteur Frankenstein, par exemple, et comme tous les savants qui travaillent à inventer quelque chose dans leur laboratoire.
C'est pas Frankenstein qui a inventé le téléphone.
Et il est d'ailleurs dans son laboratoire, Graham Bell, car...
C'est lui.
Alors, au moment où le tableau est réalisé, il est encore peu connu, hein, Graham Bell. Il sait qu'il veut inventer de grandes choses, mais il ignore quoi. Il se cherche. Il a déjà mélangé diverses substances pour créer une lessive efficace des 30 degrés qui enlève toutes les taches, même les plus tenaces. Ce sont les fioles que l'on aperçoit à l'arrière-plan sur la table qui ont servi à cela. Alors, il l'a testé, cette lessive, sur son propre pantalon, ce joli pantalon rayé qu'il porte présentement, que sa femme Isabelle, dite Babi, lui a amoureusement... Lui a amoureusement cousu pour leurs 5 ans de mariage. Résultat, le pantalon a rétréci, puisqu'il lui arrive désormais au genou. Alors, il a tenté aussi, Graham Bell, d'ouvrir une cage aux oiseaux pour les regarder s'envoler, c'est beau. En fait, il cherchait à mettre au point un système automatique d'ouverture des cages. Mais les oiseaux, intoxiqués par les vapeurs dégagées par un fond de lessive efficace des 30 degrés qui enlève toutes les tâches, même les plus tenaces, sont tombés raide-bord. On voit encore leur cadavre.
Oui, il en a parlé, Serge. Oui.
Cadavre donc, dont notre inventeur, trop occupé à inventer, n'a pas pris le temps de se débarrasser. Car il est sur un coup cette fois, Graham Bell, il le sent, il a construit cet objet avec une caisse en bois, quelques fils de cuivre qu'il a connectés, comme ci et comme ça, un trou, un petit trou où il colle alternativement sa bouche pour parler et son oreille pour écouter. Et là, à ce moment-là, nous voyons à son air que oui, ça marche. Dans l'appareil, il entend Isabelle, dite Babi, qui lui rappelle de ne pas oublier de prendre du pain en rentrant.
Mais il n'entend pas très bien, d'où son regard très tendu, très angoissé.
Il est déjà
très
premier
angoissé,
étonné que ça marche, parce que jusqu'à présent, ses tentatives ont été...
Pourquoi est-ce qu'il a un grand manteau bleu quand il est dans son atelier?
Excellente question. Alors là.
Mais il s'apprête déjà à partir, à rentrer chez lui, et il avait enfilé une manche.
Enfin, on parle du manteau bleu.
Ah bon, bah oui, je suppose que c'est ce qui a attiré votre regard.
Et la petite échelle. Cette cage à oiseaux, les oiseaux sont sortis de la cage par une échelle.
Exact.
Vous avez déjà vu
l'échelle.
Les oiseaux s'évadaient d'une cage par une échelle.
Alors, je conseille aux auditeurs de bien regarder le lien qui mène au tableau sur le site des Papous, parce que Serge Joncourt a fait une description qui est pas mal, hein, mais qui est pas globale, qu'on voit pas tout.
Ben non, vous savez.
Parce que quand même, le manteau bleu, il est important. Ouais. Et l'échelle aussi. Alors, Jacques Jouet, pourquoi vous avez été attiré par ce tableau spécialement?
Eh bien, par toutes les raisons qui ont été dites.
Ouais.
C'est un tableau inquiétant.
Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bah, écoutez, quand même, les peintres, ils sont forts. Pour se trouver à cet endroit-là précisément, à ce moment-là exactement, avec tout son matériel, brosse et couleur sur palette, en plein air, les pieds dans l'eau salée, le derrière dans l'eau de mer. Vous voyez cette langue de mer bleue, là, à droite du tableau?
Voilà,
cette grande mer bleu foncé, ce flux et ce reflux. Il faut vraiment être fort. Quand même, les peintres, ils sont forts. Il faut vraiment se prénommer Jean-Baptiste Greuze. Jean-Baptiste Greuze, évidemment. Ça aide, lui, il n'avait pas peur des eaux baptismales. Voilà, le peintre a vu ça, et il a peint ce qu'il a vu. Une chose que personne ne voit jamais. Un bigorneau qui est en train de sortir de sa coquille. Ah non, qui est complètement sorti de sa coquille. Sa coquille ressemble un peu à une horloge comtoise qu'on aurait décapitée. Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est peut-être pas vraiment un bigorneau. Si c'était pas plutôt... Bon, d'accord, la différence n'est pas non plus très flagrante. Un Bernard l'ermite qui est en train de s'extraire de la maisonnette qu'il a usurpée comme le coucou fait du nid d'un autre volatile. Mais oui, la chair blanche du presque crabe, de la quasi-langoustine, de l'ersatz de homard, évidemment... Il y a même la couleur des œufs de corail dans les bandes longitudinales. Appétissant. Et en même temps, le corps fragile, le corps exposé, le corps démuni de toute protection n'est pas si rassuré que ça d'avoir accouché de son domaine amniotique. Et s'il ne pouvait plus y retourner, quelle horreur! Mer, mer! Et tous ces oiseaux de mer, 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 tout autour, qui s'intéressent peu et vivent leur vie et vivent leur mort. Ah! 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 Allô, maman Bobo? Allô, maman Bobo? Eh oui, allô.
Ah oui.
Graham Bell.
Ah ben, on n'est pas si loin du téléphone.
Celui qu'on appelait le mouton. Si je me replie encore un peu plus, est-ce que je peux revenir à l'intérieur de toi? Je te promets que j'enlèverai mes godasses, oh, je t'en supplie. Raccueille-moi dans tes petites profondeurs où je me trouvais si bien. Là, il y a trop de soleil, trop d'oxygène. Mère, mère, je ne sais pas si je fais jouer la bonne corde. La corde sensible, comme on dit. Regarde, je suis encore tout humide. Il n'est pas trop tard, je peux me faire ravaler par toi. Regarde cette échelle qui sort du panier. Qui sort d'un panier par une échelle peut retourner dans son panier par la même échelle. Ça doit être une métaphore incluse dans le tableau. Ou alors la peinture n'est jamais que mensonge. Je ne peux pas le croire. Tu dis que c'est au peintre que je dois m'adresser pour ce genre de revendication? Qu'à cela ne tienne. Greuze! Greuze! Oui. Qu'il cherche un peu, Greuze, qu'il creuse un peu à son tour le nom que son père lui a transmis. Creuse, creuse. Il en reviendra toujours quelque chose.
la chair du bulot, la chair du bigorneau, la chair de l'escargot. Mais on va bouffer dans les musées. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les grandes dents de leurs grands yeux et les grands estomacs qui sont derrière? Je ne veux pas qu'on me regarde comme ça. Pourquoi on ne nous demande jamais notre avis à nous, les sujets de peinture, si nous acceptons d'être vus comme nous vous voyons? Attention, il me pousse un œil, il me vient un nez, une oreille, comme un coquillage. Un autre sujet va naître par l'oreille, probablement, tandis que je vais redevenir coquille. C'est mon destin comme un abîme, un coquillage dans le coquillage, un coquillage collé au coquillage. Les crépidules, voilà, ça y est, il me pousse des tentacules. J'en ai déjà au moins 4 et 5 autres mini au bout de chaque. C'est très pratique pour la pêche et pour le bricolage. Bon, regardez, regardez tout là-haut. Ça s'appelle une main, paraît-il. Je vais tourner l'interrupteur. Il y a trop de lumière. Il y a trop d'images. C'en est trop de l'indiscrétion. Attention, je vais éteindre. J'éteins. Noir. Le noir de la profondeur des mers. Chut. Blouk, blouk, blouk. Blouk, blouk, blouk. Blouk, blouk, blouk.
Alors, le tableau était inquiétant, mais Jacques Jouet me semble à la hauteur. Oui. Et mais donc, ce que je prenais bêtement, je dois dire, pour un manteau bleu, c'était la mer.
Ah, c'est la mer.
Tout simplement, oui.
La mer en hauteur, comme ça. Oui,
oui, oui. Comme une liane. Qu'est-ce que vous pensez, Serge ?
Je pense qu'avec un peu de mayonnaise, ça ne doit pas être mauvais.
Oui. Passez un bon dimanche avec les papous de France Culture et avec nous, osez le contrepaix honnête. Jeu de l'esprit et jeu de son, l'art de la contrepétrie consiste à les déplacer les sons pour faire apparaître sous une certaine phrase sa face cachée. Les spécialistes pratiquent le contrepaix grivois avec comme son fétiche les fameux « oui, it ou s ». Ce n'est pas du tout notre genre, nous aimons les contrepaix propres. Même si certains papous, par malice, lancent des fausses pistes, des Canada Dry. Cela ressemble, mais ce n'est pas tout à fait. Et puis, appel à vous, amis auditeurs, on attend vos histoires courtes, dealing, honnêtes. Rubrique commentaires des papous du jour ou vos essais sur les jeux papous. Et jouez comme joueront aujourd'hui Odile Conseil, Patrice Caumont et Jacques Vallée en racontant une histoire qui commencera par une face du contrepaix et s'achèvera par sa face cachée. Petite difficulté supplémentaire pour Jacques Vallée qui lui partira du contrepaix de Patrice pour aller vers un autre. Il jouera à l'envers en quelque sorte, à découvrir un peu plus tard. C'est à vous, Odile Conseil, vous vous lancez dans l'exercice contrepétrique et sous quelle forme ?
J'ai un poème pour vous.
Ouf.
C'est le portrait tout craché. Ça, c'est ce sur quoi porte la contrepétrie.
C'est le portrait tout craché ? Et il sera pur, le contrepaix ?
100% pur. Le portrait tout craché de sa maman, c'est ce qu'on lui disait tout le temps. Mais maman avait une grosse moustache et elle n'en voulait pas, ça faisait tache. Alors elle la rasa, elle se préférait glabre, même si ça lui donnait un air un peu macabre. Elle quitta sa maman, sa famille, s'installa un moment auprès de Vintimille et puis elle s'ennuya, s'enfuit vers Mimizan, où elle s'oublia dans les bras d'un Tarzan. On la retrouva bien 2 ou 3 ans après, marchant nue sur une plage du bout de l'île de Ré. Elle alla, çà et là, cherchant un ermitage, un lieu peinard tranquille où abriter sa rage. Elle avait coupé les amarres, les parents, les moustaches, j'en ai marre. Je ne veux pas qu'on dise que je suis comme ma mère. Je suis originale, unique, extraordinaire. C'est ce qu'elle ressassait tandis qu'elle vivait seule. Et si elle faisait parfois un peu la gueule, il n'y avait personne pour le lui reprocher dans ce lieu fait pour elle, le Tréport, trou caché.
Ah, c'est fini. Oh non, mais moi j'attendais la suite de son histoire.
Au syndicat d'initiative du Tréport, qui sera très content de l'avoir comme slogan.
Le portrait tout craché, le Tréport trou caché.
Oh, le Tréport très cachou aussi.
Très cachou, oui.
Trou caché.
Donc le portrait tout craché, le Tréport
trou caché.
Trou caché. Après le Tréport de Deal, Patrice, comment on va, dans quelle contrée?
Ben là, on va dans l'histoire littéraire,
oui,
du siècle dernier, puisque c'est un manuscrit qui est une conversation de Desnos qu'a réécrit Léris, Michel Léris. Donc c'est un entretien entre Raymond Roussel et Marcel Duchamp qui aurait lieu au Florian en 1932, au Café Florian.
Ah ouais.
Alors je lis mon contre-paix.
Ah, avec plaisir, oui.
La mauvaise loi du fou mord la tour et mate les rois en les mouchant.
Ça vaut le coup d'être entendu, hein.
La mauvaise loi du fou mord la tour et mate les rois en les mouchant de sa diagonale assassine. Nous devrions faire une partie d'échecs sans fou. Qu'en pensez-vous, mon cher Marcel? Écoutez, maître, je vous en prie, appelez-moi Raymond. Eh bien, mon Raymond, vous m'avez déjà entraîné sur un échiquier tout noir pour quadriller notre mémoire, disiez-vous. Puis nous avons joué qu'avec des blancs pour cultiver notre fair-play. Que dire enfin de votre dernière invention, une 17e pièce, bien roussélienne, que vous avez baptisée Le Prince et qui se déplaçait en cercle. Ne pourrions-nous pas tout simplement jouer? Oh, pardon, mon pauvre Duchamp, c'est plus fort que moi. J'aime m'inventer des rituels que je suis le seul à observer. L'ego a des ergots de coq. Roussel n'écrit que pour Raymond. Et qu'écrit Roussel en ce moment? Une nouvelle pièce? Oui, hélas, je suis incorrigible. Et si vous n'avez pas peur du temps perdu, mon petit Marcel, je peux vous lire mon canevas. Cela pourrait s'intituler Lupus Solus. Car c'est l'histoire d'un loup solitaire que la meute effraie, qui n'est pas plus que ça attiré par les belles louves, ni par les loups d'ailleurs, et encore moins par les louveteaux. Non, ce rêveur pense que le loup est un homme pour le loup, et il fuit ses congénères. Il préférerait même les chiens qui sont plus fronts du collier. La louve l'effraie car elle est lubrique, vorace et s'offre à tout un chacun. Les Romains le savaient bien qui nommèrent leur lupanard de loupa la louve, la prostituée, ce qui, ceci dit en passant, fait de Rémus et Romulus des fils de pute. Notre canidé a des idées et une étrange conception de l'amour. Il est persuadé que l'on peut aimer son semblable et que seule la différence peut créer l'émerveillement, source de passion. Notre loup cherche donc l'impossible émoi, une créature de rêve au sens propre. Il vit seul sur la montagne, les saisons passent. Un matin de printemps, il est enfin ébloui par une apparition, toute de blanc vêtue. Une figure d'ange, aux très très longs cheveux d'argent, aux ongles vernis, délicatement posés sur un tapis de persneige et qui le fixe de ses grands yeux humides. Elle est si belle qu'il retient ses pleurs, devant tant de jeunesse splendide et candide, coiffée de cornes d'abondance, dorées par le soleil. Enfin, l'émoi amoureux le transperce. Comme aux échecs, le blanc commence, et c'est elle qui lance un chant plaintif et frêle, d'une voix inouïe pour le loup, si douce qu'elle le charme comme sirène. « Comment t'appelles-tu, bel enfant ?»« B. »« Ah, fit le loup, mais encore, B. »« Certes, mais petit B ou grand B ?»« B. » »« Mais B, ce n'est qu'une initiale, tu te prénommes Bérangère, Berthe, Betty ou Bérénice ?»« Bérénice, oui, bien sûr, tu seras ma Bérénice, je serai ton Titus. » B. La pauvreté du dialogue.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et surtout la réponse.
C'est surtout que d'un côté. De l'autre côté, il y a une certaine richesse, mais.
La pauvreté du dialogue et surtout de la réplique monosyllabique de la bique fit que notre loup réalisa en un instant que cet immense amour frisait la série B et que la communion des âmes semblait reportée au calende. Il tenta une fois trop sans doute, une question. Ou Béatrice, peut-être, une Béatrice à la dente. « Bébé, fit-elle. Hélas, pour la chèvre, ce gain d'un B fut sa perte, car jamais un couple de B n'abolira le hasard, ni l'instinct de cruauté innée. L'amour s'enfuit vite dès que l'on se parle vraiment. »
Ah oui.
L'amour s'enfuit dès que l'on se parle vraiment. Le loup rêveur vit bien que c'était raté pour l'émoi et redevint un monstre de son espèce et de mauvaise foi. Il la dévora une dernière fois des yeux, puis il reprit « Ou Béatrice al dente » comme les pattes à croquer, et il lui tordit le cou. Et voilà où j'en suis, mon cher Marcel. La mauvaise foi du loup tord l'amour et rate l'émoi en loup méchant.
Oh là là. Mais j'étais certaine que la chute serait magnifique.
C'est une comédie de la bique.
Alors, le début, redites-nous votre début et votre fin, quand même. Ce sont les deux faces d'un contre-paix.
La mauvaise loi du fou mord la tour et mate les rois en les mouchant.
Oui.
La mauvaise foi du loup tord l'amour et rate les mois en loup méchant.
C'est triste hein, pour l'amour, quand même. L'amour n'en sort pas grandi, quoi. Je vous ai vu rire, Odile. Moi, je trouve cette histoire tragique et d'une tristesse infinie. Là,
elle sait ce qu'il faut répondre aux hommes maintenant, c'est belle.
Ben...
si on veut qu'ils vous dévorent des yeux une dernière fois.
Ta vie va changer.
Antonioni, dans La Nuit, ne dit pas autre chose. À chaque fois que j'ai voulu communiquer avec quelqu'un, Monica Vitti dit ça. À moi, chaque fois que j'ai voulu communiquer avec quelqu'un, l'amour s'est enfoui. C'est l'incommunicabilità. Ça, c'est. En italien, c'est imprononçable, mais c'est beau.
Jacques Vallée, Patrice Caumont nous a fait un magnifique contre-paix, foisonnant, généreux. Oui. J'en ai pris un petit bout, j'ai pris le début en fait, le début de la face cachée du contre-paix, qui est « La mauvaise foi du loup tord l'amour
oui. ».
Et j'ai pensé que c'était une histoire à écrire par vous, parce que c'est bien une atmosphère qui vous sied.
Oui, ben j'ai essayé.
« La mauvaise foi du loup tord l'amour ».«
La mauvaise foi du loup tord l'amour ».
Est-ce que vous aboutirez à un contre-paix ?
À quelque chose qui ressemble à un contre-paix, qui peut être un peu tiré par les cheveux, mais...
Oui, mais qui ne ressemblera en rien...
Oh non, non, c'est...
À la
je
première
n'ai pas,
phase
je,
du contre-paix.
Je n'ai pas le don, la virtuosité de Patrice.
Ah bon ? Non, he's fishing for compliments,
oui.
Isn't he ? Allez, on vous écoute.
La mauvaise foi du loup tord l'amour, cria Christopher. Lord Christopher... avait invité Solange dans son château. Il avait rencontré la jeune Française sur le bateau qui le ramenait en Écosse. Ils avaient échangé des sourires. Il lui avait offert un whisky pur malt, puis deux.
Quand même.
Le courant était passé entre eux.
Elle fut sur un bateau, c'est
ça. Sur un bateau, oui.
Elle fut un peu... Bah oui, il y a le bar. Moi, sur les bateaux, je vais toujours au bar.
Même pas mal au cœur, hein. Rien. Hein
non, jamais. Elle fut un peu désappointée de découvrir cette sombre demeure isolée au bord d'un petit lac. La maison n'était pas seulement sinistre, elle était surtout dans un état lamentable. Comme ils avaient essuyé en arrivant une forte averse, l'eau commençait à goutter des plafonds. Il s'excusa. Il mit une bassine sous le filet d'eau et s'empressa de faire un feu pour réchauffer l'atmosphère. Assis en face de Solange, lors Christopher, terriblement troublé, ne savait comment surmonter sa timidité. Il lui récita des poèmes, puis des fables. Une fable où un loup ne se comportait pas tout à fait en gentleman avec un agneau. Quand il dit « la mauvaise foi du loup tue », il prononça tort. Et il ne sut comment continuer. Il se rapprocha de la jeune femme et cria « l'amour ». Il entraîne.
Il avait rebu du whisky quand même.
Oui, voilà, exactement.
Oui, oui.
Il entraîna alors Solange à l'étage. L'eau qui tombait du plafond inondait le lit.
Mais elle se laisse faire, elle le suit, elle dit rien.
Solange ne voulut pas rester.
Ah, vous voyez, quand même. Oui.
Solange ne voulut pas rester un moment de plus. Elle demanda à Christopher de la raccompagner au village, pensant le mauvais toit du lord, c'est un four.
Attendez, alors la mauvaise foi du loup tord l'amour et elle pense le mauvais toit du lord, c'est un four. Et pourtant il pleut. C'est ça qui est bizarre.
Oui, mais c'est un four, c'est son histoire amoureuse.
C'est un râteau. C'est un râteau. Voilà.
Un
ah,
râteau. Oui,
elle
mais
aurait
un râteau,
dit,
ça n'allait pas.
Pas très bien.
Ça n'allait pas avec les mots de la contrepétrie.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice?
C'est très très bien.
Oh, parce que l'histoire est belle quand même.
Ah oui, l'histoire est très belle, oui. C'est bien. Non, mais j'attendais le loc, moi, il n'y a pas eu de loc alors.
Il n'y a pas eu de loc, mais. Et non, ils sont entrés dans la maison avant.
Ils sont pas au bord d'un lac.
Oui, c'est au bord d'un lac. Oui. Oui.
Non, mais c'est bien, mais c'est une belle histoire. C'est un peu la même histoire.
Oui, vous
c'est,
avez.
C'est la même histoire. C'est quand même une femme timide qui ne dit rien.
Oui, mais enfin, elle finit par partir quand même, parce qu'elle n'est pas bête. Oui. Elle dit rien, mais elle n'est pas bête.
À mon avis, c'est surtout qu'elle n'aime pas trop l'humidité. Quoi. C'est,
oui. Quand même. Oui, un bon feu de tourbe et ça réchauffe. Hein.
Harley Davidson de Kazuko Oki, les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Et aux papous, il y a bien des façons de raconter des histoires. L'une d'elles consiste à procéder par gonflement successif d'une phrase vers le roman, court le roman. La phrase de départ, c'est Jean-Bernard Pouy qui l'a tirée au sort parmi plusieurs que je lui ai proposées. Il l'a doublée en volume, la nourrit d'idées nouvelles tout en respectant, c'est la contrainte, le premier et le dernier mot. Le deuxième, Gérard Mordillat, a procédé à l'identique, mais évidemment à partir du texte de Jean-Bernard. Même contrainte ensuite pour Jacques Bertrand à partir de celui de Gérard. Quant à Serge Joncourt, il écrira l'épilogue en deux petites lignes. Jean-Bernard Pouy, on découvre avec vous la phrase en jeu.
En attendant de devenir Fangio, je sais que Mario a bousillé toutes les voitures des clients du garagiste son père, car il était fils unique et son père très très patient.
Qui a écrit ça, vous croyez?
Alors là, je ne sais pas.
C'est quelqu'un que vous aimez bien, Gérard Mordillat, et dont certains disent du mal, c'est une femme.
C'est une femme?
Oui.
François Sagan ?
Oui, précisément. Oh. Elle a écrit ça à propos d'un tableau
Fangio,
de...
C'est Fangio qui t'a mis sur
oui.
La
bien sûr, ouais. D'un tableau de Botero qui s'appelle La maison de Raquel Vega, où elle a joué un petit peu comme nous on joue au LSD, léger strabisme divergent, et donc elle a imaginé, à partir de ce tableau, des histoires.
Et on a tort de dire du mal de François Sagan,
absolument,
qui est un très bon écrivain.
Et on n'en dit jamais
que...
ici.
Moi, je ne savais pas qu'elle employait des mots comme bousiller...
Ah ben, Sagan. Vous n'avez pas tout lu d'elle. Relisez-nous cette phrase.
En attendant de devenir Fangio, je sais que Mario a bousillé toutes les voitures des clients du garagiste son père, car il était fils unique et son père très très patient.
Voilà, on va voir comment cette histoire a évolué. Par exemple, vous, Jacques Abertrand, vous êtes en numéro 3, vous n'aviez pas connaissance du début de François Sagan.
Ah non, non.
Par rapport à ce qui vous est arrivé venant de Gérard Mordillat et de Jean-Bernard Pleu au début, il y a une grosse grosse différence, ce qui serait normal.
Oui, on est parti un peu loin quand même. De...
Bon. Mais on va voir jusqu'où on est parti. Mais c'est normal quand on est au volant d'une voiture, non ? Jean-Bernard Pouy, alors vous attrapez cette phrase de François Sagan et vous la doublez en volume, vous la gonflez d'informations avec un projet, bien sûr, narratif. Qu'est-ce que vous vouliez en faire ?
Mais ça ne change pas tellement, mais on varie un peu sur les motifs définitifs. Il ne fallait pas que je désespère Mordillat après.
Oui, on ne désespère pas Billancourt, mais Mordillat non plus. Mais vous vouliez faire un roman policier, un roman d'atmosphère ?
Non, 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 un roman un peu années 30, comme ça, avec des histoires de bagnoles, des histoires de femmes.
Des femmes. Oui. Vous avez introduit des femmes dans l'histoire.
Introduire des femmes, je ne sais pas si c'est un terme que je...
vous utiliseriez.
Que je l'utiliserais.
Allez, allez, taisez-vous, racontez-nous.
En attendant de devenir le chéri absolu de ces dames, celui qu'on appelait Fangio... Tant il séduisait vite, je sais que Mario avait déjà bousillé les cœurs de toutes les beautés du quartier, qu'il emmenait dans toutes les voitures des clients du garagiste, à tel point que son père dut intervenir, car il était fils unique, le Mario, et son père n'était également pas très très patient.
Donc son père n'est plus le garagiste, hein, avec vous. Gérard Mordillat, vous recevez ce texte de Jean-Bernard Pouy. Évidemment, vous n'aviez pas sa lecture, vous l'avez lu avec vos yeux.
Oui.
Vous avez mis les intonations qui vous plaisaient. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, j'y ai vu justement une histoire entre un père et un fils, et un père garagiste et un fils qui abuse du privilège de jouir d'un garage dont il n'est pas le propriétaire.
Ah, donc vous avez recréé le lien familial que Jean-Bernard Pouy avait supprimé, finalement.
Ah bah oui, parce que je sais que Jean-Bernard Pouy est contre la famille. Moi, je défends au contraire le lien sacré.
Et contre les bagnoles.
Et alors, vous faites pencher l'histoire vers quelle ambiance ?
Bien, vers une ambiance peut-être un peu plus dramatique, peut-être avec un soupçon criminel, avec quelque chose où il y a un climat plus dangereux.
Ah, et il y a du sexe avec toutes ces femmes ?
Cela va de soi.
Oui, on écoute.
En attendant de devenir le patron du garage, Mario... L'héritier légitime se conduisait avec les filles, les épouses, les veuves, comme il conduisait n'importe quelle voiture, à fond la caisse. Le chéri absolu de ces dames, le sprinter du 5 à 7, le tireur fou toujours sorti, jamais rentré, était celui qu'on appelait le plus souvent Fangio, tant il le séduisait vite et se lassait aussi vite de ses conquêtes. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, je sais que Mario avait déjà bousillé les cœurs de toutes les beautés du quartier, mais de là à dire que c'est lui qui en aurait transformé une douzaine en pâté en croûte, il y a un pas que je me refuse à franchir. Bien sûr, il les emmenait dans toutes les voitures des clients, et qu'elles revenaient rarement, pour ainsi dire jamais, se plaindre ou réclamer. Elles étaient folles de l'héritier du garagiste, qu'ajoutaient d'autres. Contrairement à la rumeur publique, cela nuisait plutôt au commerce, à tel point que son père dut intervenir. Il lui intima l'ordre de cesser d'enlever les clientes et menaça de le déshériter, car il était fils unique, le Mario. Mario répliqua qu'il ne fallait pas le chercher, sinon on le trouvait. Et son père, monsieur le commissaire, n'était également pas très patient.
Ah, on a une autre ambiance, hein, évidemment, avec Mordillat. Il n'y a pas de social, c'est bizarre, chez Mordillat.
Oh, il y a une question d'héritage.
Oui, bah oui, mais justement, non, mais on est quand
peuple,
même...
Le garagiste, tout ça, le quartier.
Oui, ouais, ouais, mais quand il y a héritage, il y a de l'argent.
La sueur, le peuple.
Alors, à ce moment du récit, moi, je crois qu'il faut qu'on entende à nouveau la phrase de départ qui était une phrase de François Sagan.
En attendant de devenir Fangio, je sais que Mario a bousillé toutes les voitures des clients du garagiste son père, car il était fils unique et son père très, très patient.
Bon, alors maintenant, Jacques Abertrand est dans une histoire d'héritage. il bousille plus les voitures, il bousille les femmes. Apparemment, c'est une sorte de Landru, un peu jeune, un peu mignon, qui ferait craquer les femmes sur la banquette arrière. C'est un peu ça l'idée, non ?
C'est tout à fait l'idée.
C'est ce que vous allez raconter.
C'est tout à fait l'idée.
C'est la suite logique.
Mais le mystère, c'est qu'elles ne reviennent pas, se plaindre en tout cas. Elles ne reviennent pas du tout, en fait.
Oui.
En attendant de devenir le patron du garage, que son père avait pu acheter avec les économies réalisées dans sa petite épicerie pendant la guerre, Mario, l'héritier légitime, se conduisait avec les filles, les épouses, les veuves, comme il conduisait n'importe quelle voiture, à fond la caisse, le pied au plancher, puis sur la banquette arrière.
Ah, ben voilà.
C'était le plus souvent des voitures de collection, des veuves de collection aussi parfois, qu'il empruntait sans demander de permission. Le chéri absolu de ces dames, le sprinteur du 5 à 7, le tireur fou, toujours sorti, jamais rentré avant l'aube, on l'appelait souvent Fangio, tant il séduisait vite et se lassait aussi vite de ses conquêtes, de ses limousines et de ses cabriolets. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, je sais que Mario avait déjà bousillé les cœurs de toutes les beautés du quartier, particulièrement achalandées, mais de là à prétendre que c'est lui qui en aurait transformé une douzaine en pâté en croûte, il y a un pas que je me refuse à franchir. Bien sûr, il les emmenait toutes dans les voitures des clients et elles revenaient rarement, pour ainsi dire jamais, pour se plaindre ou pour réclamer. Elles étaient folles de l'héritier du garagiste. D'ailleurs, Mario, en dépit des grands airs qu'il se donnait, était au fond un délicat. Il ramenait les voitures sans la moindre égratignure.
Ah.
Aurait-il été moins délicat avec ses conquêtes ? Il est vrai qu'elles ne sont jamais venues se plaindre. En fait, elles ne sont pas revenues du tout. Il semble que la plupart de leurs maris, pour celles qui en avaient un, étaient surtout soucieux de récupérer leur véhicule.
Oh, mais comme ils sont égoïstes, ces hommes, c'est pas vrai. Ça.
Mais contrairement à la rumeur publique qui alimentait les conversations, tout cela nuisait plutôt au commerce. Le père dut intervenir. Il intima à son fils unique l'ordre de cesser d'enlever les clientes et les femmes des clients et menaça de le déshériter. On n'a pas revu le père depuis. Selon certains témoins, Mario aurait déclaré à son père qu'il ne fallait pas le chercher car on risquait de le trouver. Sur le coup, qu'il soit question de trouver quelque chose alors qu'on déplorait des tas de disparitions paraissait bizarre. Il faut dire, monsieur le commissaire, que personne, Mario, son père et même vos inspecteurs, personne dans cette affaire ne s'est montré très patient.
Ah ben évidemment, évidemment. Et la contrainte a été respectée. Il y a toujours le mot « patient » à la fin du texte et en attendant... Au début, alors, c'est une histoire qui a un vrai parcours. On part d'une petite anecdote comme ça, un type qui aime bien les voitures parce qu'il a un rêve, c'est de devenir Fangio. Et puis, on se retrouve avec un coureur, non pas automobile, mais un coureur de femmes qui, en plus, les fait vaguement disparaître, qui préfère peut-être les cabrioles aux cabriolets même, non ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Est arrivé le limousin au limousin.
Ah non, mais je l'ai mûri, en écoutant Jacquard.
Ça pourrait être le titre.
Et donc, justement, Serge Joncourt, est-ce que ce sera le titre ?
Non,
je vous l'offre, si vous le voulez.
Non, ça pourrait. En fait, il s'agit du scénario d'un très bon, mauvais film de série C des années 60 d'un certain Rino Disi. Qui était un peu concurrent d'un autre.
Oui.
Et ça s'appelle Il Ravino, ça s'appelle Il Ravino. Parce qu'en fait, le dernier plan, c'est un peu comme dans Le Fanfaron. C'est... En fait, on retrouve tous les personnages à la dernière image.
Ah bon ?
Mais agglutinés au fond d'un ravin, c'est ça. Là. Et là-dessus, il y a la bande-annonce. Enfin, il y a le générique.
Le générique
de fin.
Voilà. Et tout le monde est mort ?
Tous, tous.
Ah,
sauf Mario, évidemment. Qui...
Ah oui, qui s'en sort bien.
Là, il...
Qu'est-ce que vous pensez de cet épilogue, Jean-Bernard Pouy ?
Formidable.
Vous qui avez lancé l'histoire, quand même. Formidable, vous diriez.
Formidable. Vous savez, tous les coureurs automobiles finissent dans le ravin. Alors bon, comme ça commence avec Fangio, un peu... Ou Ascari, moi je me souviens d'Ascari.
Mais Fangio n'a pas fini dans le
ravin. Non, lui. Il va très bien.
Il va très bien.
Ascari, oui, je crois. Enfin, une fois, il était fini dans le port de Monaco.
Non.
Ce qui était formidable.
Ça, c'est très original.
Et Ascari est le seul coureur automobile qui a vu un chat noir traverser la piste en pleine course et qui a sorti son peigne pour regarder la route après, pour conjurer le mauvais sort.
Tout au long de la vie qui pique, on prend des beignes à vouloir toucher les filles électriques. Des sacrés châtaignes, on retrouve. retrouve couché par terre, l'effet uppercute. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Faut refaire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratigne. Au mystère des filles de fer, sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
Souchon, les filles électriques, vous écoutez France Culture. Des papous dans la tête à suivre jusqu'à 13h58, le petit Rémailleur illustré et une nouvelle textée de Jacques Jouet pour Patrick Beignet, Jacques Abertrand et Serge Joncourt. Au micro, François Stressart et la bande des papous du jour, le petit Rémailleur illustré donc, notre dictionnaire en rime, dico d'un genre nouveau où tous les mots font l'objet d'une définition poème. Et si tous les sens sont traités en principe, un contrôleur veille au respect du propre et du figuré, chacun est libre de faire parler sa subjectivité. Véronique Brindeau est la rédactrice du jour. Je déclare la séance des dimanches du dictionnaire ouverte.
Chemise,
Véronique Brindeau, vous jouez avec le carton. Ah c'est oui. Un mot avec plein de sens, hein, plein de références en chanson et partout. Et d'ailleurs, tiens, le mot chanson, est-ce que vous avez eu envie de chanter le carton?
Et c'est venu vers la fin. Oui,
ah bon
oui, oui, oui.
Donc vous allez commencer en 10 ans.
C'est venu au début et puis j'ai changé de chanson à la
en
fin.
En cours.
Oui.
Donc vous allez nous faire un florilège, parler, chanter.
Oh, tout de même pas, tout de même pas. Je vais essayer de parler, c'est
oui.
Déjà quelque chose, et puis peut-être que nous pourrons chanter ensuite, ensemble.
Ah, ensemble, c'est bien ambitieux, ça.
Avec joie.
En tout cas, vous allez être contrôlé par Eva Almassi.
Oui.
Voilà, chargée de mission aujourd'hui sur le carton. On y va ?
Les escaliers sont en papier, il n'y a rien de tel pour se casser le nez. Il n'y a pas de salut pour le facteur ni le colporteur, mais quelle idée pour une maison de la construire tout en carton. Et dans cette maison pour croche-pattes, tout est mirage, rien que du carton-pâte. Il n'y a que pour les broderies, les tapisseries, les vitraux ou bien les tapis que le carton soit un bâti. Jaune ou rouge, c'est fini, c'est le pilori. Sur la touche, fin du match, faut rester assis. À chaussures, parallélépipèdes rectangles, c'est commode pour les caser dans les angles. À chapeau, ils sont ronds et là, c'est plus coton. Pendant ce temps-là, dans les tiroirs, des projets dorment dans le noir ou dans des cartons à dessin, format raisin. Mais je dis vague, c'est pitoyable, mes cartons sont de vieux cartables. S'il est bouilli, c'est une valise. Voyage au casino pour vocalise. Si on le tape façon pagnole, faut être folle. Heureuse au jeu, je connais la suite. Pour le carton plein, je me désiste. Ondulé, il emballe pour déménager. Au tir à l'arc, le carton, c'est ce qu'il faut viser. Mais comme disait là-haut dessus, si la flèche atteint le carton, c'est qu'elle a manqué tout le reste. C'est peut-être pas de là-haut dessus, mais presque. Leurs symphonies sont perforées car leur métier, c'est cartonnier. Pour leurs orgues à manivelle et par kyriel, tous les cartons, ils les poinçonnent. Ils font des trous pour qu'on chantonne. En trous carrés, ils vous la codent, la musique, et la rue devient ode. Quand de l'orgue de barbarie la tête le lit, le carton troué devient rengaine, Norma ou de la nuit, la reine. Opérette, chansonnette, à la moulinette, le carton vous invite pour des clopinettes. Au cinéma muet, tout ce qui n'est pas dit, c'est le carton qui vous l'écrit. Dans les cartons, pour longtemps, dort le bon vieux temps.
Oh, c'est joli, c'est très joli. Ça paraît très complet, Eval Massy.
Oh, c'était très, très complet.
Oui, j'ai vu que vous regardiez Véronique, vous ne regardiez absolument pas le dictionnaire.
Non, parce que j'étais fascinée par l'agencement. En fait, ça donnait une histoire dans sa bouche. Et pas du tout du carton pâte, c'était pas du tout que c'était que du vrai. Alors, on parle parfois, en parlant de carton à dessin et de carton tout court, en parlant de peintre, au sens d'études. Donc, les cartons de Raphaël sont ses études.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'était légèrement abordé.
Oui, c'était abordé. Donc, absolument pas de carton jaune ni rouge, surtout pour Véronique, parce que tout y était, sauf peut-être la petite carte de géographie qui peut être un carton. Et donc...
Ah bon?
Ce que j'ai... Ah ben, je ne savais pas. Hein. C'est vous m'avez donné le dictionnaire.
D'accord, mais oui, mais on apprend quelque chose.
Non, ce n'est pas de science infuse. Par contre, je peux offrir à mon tour à Véronique une citation de Courteline. Au sens de ses casiers, à couvercle brisé, dit le dictionnaire. Et la citation, d'antiques cartons arrachés violemment à l'étreinte de leurs alvéoles s'ouvraient, lâchant des avalanches de paperasses.
Oui, c'est pas inintéressant à remarquer.
Ça vaut pas la haute queue quand même.
Non, ça vaut pas la haute queue.
Absolument pas,
c'est beaucoup de mots pour finalement ne dire pas grand-chose.
Alors Véronique Brindeau, vous avez dit au début que vous alliez chanter un petit peu. On peut entendre ? C'est sur quel air d'abord ?
Oh, c'est un air que vous connaissez tous.
Hein. Ah, c'est ce qu'on dit toujours quand on sent que les autres ne reconnaîtront absolument rien.
Ça doit être Pirouette Cacahuète, normalement.
Bah, ça a commencé par Pirouette Cacahuète, mais avec les orgues de barbarie et ces poinçons carrés que donne la perforation des cartons de cartonnier, eh bien, ça finit par le poinçonneur des lilas.
Vous allez chanter les deux airs ou pas, ou vous faites un choix ? Moi, j'aimerais bien le poinçonneur des lilas, non ?
Eh bien, je suis d'accord.
Bon, ça tombe bien. Allez.
Pendant ce temps-là, dans les tiroirs, il y a des projets qui dorment dans le noir, ou dans des cartons à dessin, au format raisin. Mais je dis vague, c'est pitoyable, mes cartons sont de vieux cartables. Si les bouillies, c'est une valise. Voyage au casino pour vocalise. Si on le tape façon pagnole, faut être folle. Heureuse au jeu, je connais la suite, pour le carton plein, je me désiste. Ondulé, il emballe pour déménager. Au tir à l'arc, le carton, c'est ce qu'il faut viser. Mais comme disait Lao Tzu, si la flèche atteint le carton, c'est qu'elle a manqué tout le reste. C'est peut-être pas de Lao Tzu, mais presque.
Ouais, c'est ravissant, bravo. On prend la version parlée, la version chantée.
On peut dire que Véronique a fait un carton.
Dernière séquence de ce numéro de Papou dans la tête, la textée. La textée, elle s'apparente à une dictée, mais attention, une dictée qui ne dicterait pas les mots du texte, une dictée tout sauf scolaire, puisqu'elle fait réfléchir aux mots. Et les mots trouvés ne seront pas les mêmes pour chacun des joueurs. Puisqu'elle fait réfléchir aux mots, donc, en proposant des métaphores, des figures de style, des formules grammaticales. Celui qui texte, appelons-le le texteur, doit faire preuve d'imagination
pour susciter celle des écrivains qui se soumettent à sa textée. C'est un jeu difficile et excitant, excitant comme tout ce qui est difficile. Le texteur Jacques Jouet propose sa feuille de route en 10 consignes. À Jacques Abertrand, Patrick Beignet et Serge Joncourt d'écrire ensuite les 10 lignes demandées, une par consigne. Jacques Jouet, la textée, première partie, l'énoncé des contraintes à suivre.
Loin qu'il soit bien nécessaire de vous étaler inconsidérément, soyez agressif, voire brut de décoffrage, mais sans vous empêcher de recourir à une petite pointe d'originalité.
Wow, c'est dur ça. Tout ça en une ligne. Respect.
2. Faites en sorte qu'il vous soit répondu du tac au tac et reprochez votre provocation d'une façon un tantinet archaïsante. Attention, vous êtes nommé.
Ah oui. Ça veut dire que c'est un dialogue, non ?
Ah, il y en a qui suivent. Hein.
Merci Jacques.
C'est peut-être bien un dialogue. Reprenez le cours de votre parole, oui. Menaçante, à l'aide d'une rareté syntaxique. Attention, vous nommez votre partenaire.
Une petite question sur la rareté syntaxique, Serge ?
Non.
Tout va bien ?
Nommez le partenaire, ça c'est important.
4. Votre partenaire élève incontestablement le débat en détournant la conversation et l'agressivité.
Calme le jeu.
5. Jurez une bonne foi en exprimant votre incompréhension. 6. Sans pitié, votre partenaire tente verbalement de vous mettre un miroir devant les yeux pour vous faire honte. 7. Répliquez en jurant répétitivement, c'est-à-dire en réutilisant vos vocables préférés et en alignant des états de service qui, il est vrai, en jettent un max. Là, vous pouvez vous étaler un peu.
Ça veut dire qu'il y aurait plus d'une ligne.
Ouais.
Le ton monte.
Vous recevez en pleine gueule une dévalorisation drastique des 10 états de service.
Uh-huh. Ah bon ? C'est possible,
10 états de service. 10, non, c'est écrit comment ?
Ça fait beaucoup, hein ?
Des DES, des ITS, états de service.
Bon, soulagé.
Alors, 9. Redites plus simplement votre incompréhension en tutoyant cette fois votre partenaire.
Donc, on le voyait jusque-là.
Oh, bon, bien ! Non, mais...
Excellent.
Je note.
Il y a des très très bons candidats aujourd'hui.
Ah oui, oh mais on vous a fait un plateau idéal.
10 et dernière. Votre partenaire assène pour finir un diagnostic sans nuance quant à votre quotient intellectuel.
Donc ça se termine mal.
Non, ça me paraît assez clair en fait.
Ah oui,
oui.
Patrick Pellier.
En gros, il s'agit d'un dialogue en phrases courtes. Au début, il se vouvoie et à la fin, il se tutoie.
Ben voilà, c'est fait.
Il y a un beau juron à choisir à un moment donné, en 7 ou 8, je ne sais plus.
Bon, on vous attend là-dessus, Patrick.
Je voudrais savoir si Françoise a raison ou pas.
On a toujours raison.
Bon, parce qu'un diagnostic sans nuance sur le quotient intellectuel, ce n'est pas forcément que le quotient en question est égal à zéro. Ça peut être aussi...
Oui. Non, ça peut être 50, 60.
Oui,
ce n'est pas forcément péjoratif.
Oui,
c'est effectivement... Il y a des optimistes et des pessimistes.
Voilà, le monde se divise en deux. Vous êtes servi ? Bon, alors vous prenez vos crayons et il n'y a plus qu'à l'écrire.
Absolument.
Ça s'est bien passé, Jacques Abertrand. Oui, Serge, Patrick, tout va bien ?
Oui, ça s'est passé, je confirme.
C'était très clair.
Ah oui, on va réécouter les consignes de Jacques Jouet, une à une, et puis on va écouter vos versions derrière, phrase par phrase. Alors, la première consigne, c'était Jacques Jouet.
Loin qu'il soit bien nécessaire de vous étaler inconsidérément, soyez agressif, voire brut de décoffrage, mais sans vous empêcher de recourir à une petite pointe d'originalité.
Alors, comment vous réagissez, Jacques Abertrand, à cette première consigne ? En écrivant quoi ?
Dites donc, vous, ça va pas ? Espèce d'antonomase.
Ah, pas mal dans le choix de l'injure. On est proche, on est loin, Jacques Jouet.
C'est un peu étalé, mais c'est bien.
Ah, vous trouvez que c'est étalé?
Bah oui, c'est long. C'est très très long.
Ah ouais?
Inconsidérément long.
Serge Joncourt.
Allons donc. Vous pouvez pas fumer ailleurs? Espèce de trou du cul de pipe.
Ah, c'est encore plus long. L'insulte est encore plus violente et on est plus long.
Le trou du cul de pipe, c'est pas mal.
C'est original.
Alors on a un... Allons donc, avec Patrick Béni, on a quoi?
Ne me touchez pas à la vieille. Arrière, vieux fer à repasser.
Alors on a deux dialogues avec... entre hommes, hein, apparemment, et un dialogue avec une femme.
Parce qu'un vieux fer à passer, c'est nécessairement une femme.
Non, mais... La
conception de la féminité me surprendra toujours.
Enfin... Non, mais vous avez dit, ne me touchez pas la vieille.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est quand même un indice.
Non, mais c'est une suprême injure pour un garçon de dire la vieille.
Ah ben oui, c'est vrai. Deuxième ligne.
Faites en sorte qu'il vous soit répondu du tac au tac et reprochez votre provocation d'une façon intentinée, archaïsante. Attention, vous êtes nommé.
Alors, que dit l'autre?
Antoine, apaisez ce courroux, mon ami.
Ah oui, vous avez respecté la consigne du vous et...
L'archaïsme.
Et l'archaïsme, très bien. Et Serge Joncourt?
Trop du cul de pipe vous-même, espèce de voisin.
Ah,
qu'est-ce qu'il y a d'archaïque?
Oui, c'est pas très...
Oh, bah, trop du cul de pipe vous-même, un peu plus archaïque.
C'est la pipe qui est vieille.
Si vous me traitiez de mécréant, je vais... mécréant vous-même, c'est archaïque.
Ah, le vous-même, c'est le vous-même qui est...
Absolument, vous. Ah.
Oui, c'est pas le trou du cul de pipe, non. Patrick.
Point ne me comprenez, Seigneur Hippolyte.
Ah, là, on est vraiment dans l'archaïsme. Hein. On se rapproche d'une vérité du texte de départ.
Ah bah oui, on est en plein dedans.
Ah bon?
Plein dans la vérité, les deux pieds dans la vérité.
Après.
Reprenez le cours de votre parole menaçante à l'aide d'une rareté syntaxique. Attention, vous nommez votre partenaire.
Alors, Jacques Bertrand, il s'appelle comment?
Cléopâtre.
Oui.
Hé hey, Cléopâtre, le monde aurait été changé, votre nez en eût été plus court. Prends sur le pif.
Moi, j'aime bien, dans le monde de Jacques Bertrand, on s'insulte, mais avec une extrême douceur, tout de même. Serge, on est beaucoup plus violent avec
on
vous.
On me demande de la rareté syntaxique.
Mais voilà, voilà. Est-ce qu'on va avoir la rareté syntaxique avec Serge?
Te, v'là qui me cause maintenant. Voisin vous-même. Si oui. C'est pas de la rareté syntaxique.
Ça reste sur le même palier. Hein.
Au rez-de-chaussée.
Patrick Beignet.
D'amour mourir, vos yeux ne me font, Phèdre.
Ah, on va toutes les avoir. On se rapproche, hein, Jacques Jouet.
Votre partenaire élève incontestablement le débat en détournant la conversation et l'agressivité.
Jacques Bertrand.
Ne serait-il pas plus raisonnable de nous asseoir autour d'une table?
Serge.
Vous avez vu ces cumulus? Ça sent que ça va péter. Elle t'en monte. Hein.
Oui, il élève la conversation en parlant des nuages.
Ouais, voilà, très, très bon. Voilà, voilà, Patrick.
Que pensez-vous du dernier livre de Pascal Quignard?
Il élève la conversation aussi, bah, oui, là. Oui. Très, très haut, très haut, très haut. Après.
Jurez une bonne foi en exprimant votre incompréhension.
Alors.
Jarnicoton, vous n'arriverez pas à m'embrouiller, j'ai déjà dîné.
Ça va, Jacques?
Enfin, apparemment, il n'a pas un gros QI, mais c'était vraiment prévu.
Serge Joncourt.
Bon sang de pétard, quel cumulus!
On n'évolue pas beaucoup dans l'histoire avec Serge.
Ça va venir.
On est très éloigné, Jacques Jouet, de...
C'est l'histoire de Serge, on ne sait pas trop de quoi il s'agit pour le moment.
À mon avis, il va y avoir une bombe à la fin, quelque chose de tout à fait inattendu. Patrick.
Par tous les dieux, je ne comprendrai jamais les femmes.
Ça. Jacques.
Sans pitié, votre partenaire tente verbalement de vous mettre un miroir devant les yeux pour vous faire honte.
Alors, qu'est-ce qu'il fait avec Jacques Bertrand?
Vous vous êtes vu dans cet état, échevelé, livide?
Oui. Serge.
Alors celle-là, c'est la meilleure. Vous n'êtes pas foutu de reconnaître un cumulus et vous venez de polluer avec vos histoires de fumée. Ça sent vécu.
Patrick.
Vous croyez-vous si désirable avec votre grosse verrue sur le bout du nez?
Ça se rapporte à la vieille du début.
Oui, c'est Phèdre.
C'est Phèdre.
C'est pas le nez de Cléopâtre.
Non. Jacques Jouet.
Répliquez en jurant répétitivement, c'est-à-dire en réutilisant vos vocables préférés et en alignant des états de service qui, il est vrai, en jette un max. Là, vous pouvez vous étaler un peu.
Ouais. Jarny Coton, Jarny Dieu, j'étais déjà caporal-chef, vous étiez encore au biberon. C'est pas un jeune singe qui va m'apprendre à faire la soupe à la grimace.
C'est élégant, hein. On est dans un monde quand même qui n'est pas le vôtre, Serge Joncourt. Alors on va avoir droit au cul de pipe, etc.
Oh nom de Zeus, je connais rien aux nuages, moi, alors que j'ai vécu 15 ans en Bretagne, 10 à Paris, et que j'étais même en Corse le jour de Tchernobyl. Tiens, si on ne faisait pas la gueule, je vous en parlerais de nuages.
Vous êtes pour le cumulus des fonctions. Vous.
Patrick.
Vieux fer à repasser par tous les dieux, par Jupiter crisé et fantin. Comment osez-vous vous attaquer à moi, chaste serviteur de Diane ? Moi pur entre les purs, moi Charicie elle-même.
Moi Charicie elle-même.
Charicie, vous connaissez Charicie, ouais. Jacques Jouet.
Charicie, elle est sortie, oui.
Sortie, comme disait
vous. Vous recevez en pleine gueule une dévalorisation drastique des 10 états de service.
Jacques.
Caporal-chef est un pléonasme, mon ami.
Ça, c'est vache, ça.
C'est dur.
Serge, autant de cruauté.
Espèce de non-fumeur, c'est pas d'Icumulus en Bretagne, c'est de la pluie, dit-il en m'envoyant sa fumée en pleine tronche.
C'est ailleurs, oui.
Pro tempora, au moment.
Patrick Beignet.
Diane et Harissi, il n'y a pas plus moche. Je vois pas quel est votre mérite, mon pauvre Hippolyte.
Redites plus simplement votre incompréhension en tutoyant cette fois votre partenaire.
Pléonasme, moi, tu la veux celle-là?
Serge.
Tu m'as envoyé ta fumée ou je rêve?
Patrick.
Ta gueule, salope.
Oh, il y a une violence chez Patrick. Hein. Dernière ligne, Jacques Jouet.
Votre partenaire assène pour finir un diagnostic sans nuance quant à votre quotient intellectuel.
Alors, Jacques Abertrand.
Violent avec ça? Quand les Grecs ont inventé le zéro, ils ne se doutaient pas que cela aboutirait à vous.
Serge.
Comment un type aussi au ras de pâquerettes peut habiter au cinquième? Je comprends pas.
Et Patrick, conclusion.
Décidément, t'es encore plus bête que ton père.
Bon, moi, je propose d'écouter ces textes sans qu'on les interrompe. Et puis ensuite, vous nous direz de quel texte vous avez tiré votre feuille de route. Jacques Abertrand, ça porterait un titre.
Oui, le zéro et le pléonasme.
Oui, fable.
Dites donc vous, ça va pas, non? Espèce d'antonomase. Apaisez ce courroux, mon ami Antoine, je vous prie. Et Cléopâtre, le monde aurait été changé, votre nez en eût été plus court. Pan sur le pif. Ne serait-il pas plus raisonnable de nous asseoir autour d'une table? Jarny Coton, vous n'arriverez pas à m'embrouiller, j'ai déjà dîné. Vous vous êtes vu dans cet état, échevelé, livide? Jarny Coton, Jarny Dieu, j'étais déjà caporal-chef, vous étiez encore au biberon. C'est pas un jeune singe qui va m'apprendre à faire la soupe à la grimace. Caporal-chef était un pléonasme, mon ami. Pléonasme, moi? Tu la veux, celle-là? Violent avec ça. Quand les Grecs ont inventé le zéro, ils ne se doutaient pas que cela aboutirait à vous.
C'est parfait, hein. Puis c'est une jolie petite scène. On voit très bien les deux héros. On voit l'histoire, non, Jacques Vallée?
Oui, tout à fait.
Ouais, vous avez suivi. Avec... Ah, vous y étiez.
Oui.
Serge Joncourt, alors.
Zone non-fumeux.
Non-fumeux, oui.
Allons donc, vous pouvez pas fumer ailleurs, espèce de trou du cul de pipe? Trou du cul de pipe vous-même, espèce de voisin. Te, v'là qui me cause maintenant, voisin vous-même. Vous avez vu ces cumulus? Ça sent que ça va péter. Bon sang de pétard, quel cumulus? Alors celle-là, c'est la meilleure. Vous êtes pas foutu de reconnaître un cumulus et vous venez me polluer avec mes histoires de cigarettes. Oh nom de Dieu, je connais rien aux nuages, moi. Alors que j'ai vécu 15 ans en Bretagne, 2 à Paris, et que j'étais même en Corse le jour de Tchernobyl. Tiens, si on ne faisait pas la gueule, je vous en parlerais des nuages. Espèce de non-fumeur, c'est pas des cumulus en Bretagne, c'est de la pluie, dit-il en m'envoyant sa fumée en pleine tronche. Tu m'as envoyé ta fumée ou je rêve? Je comprends pas comment un type aussi aura des pâquerettes peut habiter au cinquième. Je comprends pas.
J'adore cette réplique. Alors, quand elle était un peu séquencée,
on voyait
pas très bien, mais là, la continuité de la scène existe aussi très fort. Patrick Beignet, alors plus de violence chez vous, naturellement.
Oui,
Donc, c'est votre genre un peu. Ouais.
Ouais. Vous voulez un titre?
Oui.
Oui, non, c'est Phèdre.
Ah bon, il m'avait semblé aussi.
Oui. C'est une scène que Racine n'a pas eu le temps de mettre en vers.
Voilà, ouais.
Mais qui se trouve donc après la tentative de séduction d'Hippolyte par Phèdre. Ne me touchez pas, la vieille. Arrière, vieux fer à repasser. Point ne me comprenez, seigneur Hippolyte. D'amour mourir vos yeux ne me font, Phèdre. Que pensez-vous du dernier livre de Pascal Quignard ? Par tous les dieux, je ne comprendrai jamais les femmes. Vous croyez-vous si désirable avec votre grosse verrue sur le bout du nez ? Vieux fer à repasser, par tous les dieux, par Jupiter crisé et fantin, comment osez-vous vous attaquer à moi, chaste serviteur de Diane ? Moi, pur entre les purs, moi, qu'Aricie elle-même. Diane et Aricie, mais il n'y a pas plus moche. Je ne vois pas où est votre mérite, mon pauvre Hippolyte. Ta gueule, salope ! Décidément, t'es encore plus bête que ton père.
Il a quand même changé de style après Racine. Hein.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Ça dépend des interprétations.
Jacques Jouet, c'était un petit bout de Racine que vous nous avez texté?
Non, pas du tout.
Mm-hmm. C'était quoi?
C'était un peu plus récent. Ben, c'est le début de la première scène du Burois.
Ah! Et vous sortez la collection préfacée par Patrick Beignet lui-même. Et vous n'aviez pas reconnu Patrick?
Un petit peu quand même.
Ah.
D'où mais peut-être vous... la violence que vous m'avez reprochée.
Voilà, mais vous êtes allé ailleurs, très élégamment, très élégamment. Et donc, vous pouvez nous dire un petit peu quelques consignes et quelques phrases?
Bon, oui, la première phrase qui est très courte. Hein. Là, vous étiez très long, pardonnez-moi, mais c'est une réplique de 6 lettres, comme vous savez.
Oui.
Merdre! Ouais. Du tac au tac, la réponse. Oh, voilà du joli Pérubu, vous êtes sous un fort grand voyou. L'archaïsme. Ensuite, il y a la rareté syntaxique. Que ne vous assomme-je, Mérubu ?
Ah.
Ensuite, il y a l'élévation du débat. Ce n'est pas moi, Pérubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. Jurer une bonne fois, de par ma chandelle verte, je ne comprends pas.
Voilà.
Mérubu, comment, Pérubu, vous êtes content de votre sort ? Ça, c'est le miroir devant les yeux,
oui,
pour vous faire honte. Ensuite, les états de service. De par ma chandelle verte, merdre, madame, certes, oui, je suis content, on le serait à moins. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux ?
Oui, ouais, le caporal-chef de Jacques Abertrand, voilà, était parfait, ouais, hein, on n'était pas loin. Bon, mais on voit qu'il n'a pas triché avec les consignes. Hein. Vous pouvez nous dire juste la dernière ligne ?
Oh, Mérubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. À la fin, votre partenaire assène un diagnostic sans nuance quant à votre QI. Tu es si bête !
Tout simplement. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Manuel Couturier et Franck Lilin. À retrouver sur franceculture.fr pour le téléchargement ou podcast pendant 1 an et la réécoute pendant 1000 jours à la page des papous, page sur laquelle vous pouvez glisser vos questions, impressions, suggestions, rubrique commentaires, même chose sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis et puis baladez-vous en un clic dans Vie du Club et les livres des papous pour vous tenir informés des spectacles, expos et livres récents des membres de notre petite bande. On se retrouve dimanche à 12h45 avec un nouveau jeu des 10 mots pour vous sur Internet. Dimanche prochain, notez-le. D'ici là, passez une belle semaine à l'écoute de France Culture. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, dans quelques instants, c'est Tire ta langue par Antoine Perrault. Au revoir. Tiens.